On va enchaîner directement et puis on fera une petite pause d'ici trois quarts d'heure. Et donc, je suis pas une spécialiste du son, mais par contre, je me suis intéressée au film comme médium, comme pratique et aussi dans sa réception dans le cadre de ma thèse. Et donc, à travers le film, je me suis quand même un peu intéressée au son. Ouais. Alors, je vais commencer cette présentation en vous immergeant dans Lisbonne. Enfin, pas complètement dans Lisbonne, surtout dans un trajet avec le début du film Lisbonne Story de Wim Wenders.
Winter, I need your help. I cannot continue. M.O.S. S.O.S. Come to Lisbon with all your stuff as soon as possible. Kein Telefon, kein Fax. Schreiben, sag mal. Da bringe ich meine Antwort lieber gleich selbst hin.
Aufgestellt auf den Decknamen I.M. Notar.
Wenn die Seele gähnt.
Europa ohne Grenzen. Die Schranken hochgeklappt und jeder kann durchmarschieren, wie er Lust hat. Will denn niemand meinen Pass sehen? Bitte, bitte. Oder lasst mich wenigstens meinen Kofferraum aufmachen. Ihr würdet euren Augen nicht trauen, was ich da so alles durchschmuggle.
Durbar et Delors. Chirac n'a même pas la moyenne et Rocard tout juste.
Turbothermique ultra.
Et puis quelques titres culturaux, artistiques.
Ça n'est pas que ça.
À la une du Parisien, le cirque d'Igelin. À la une d'Infomatin, Bachung.
Il est 14h.
Niger.
Test, Test, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Bin schon lange nicht mehr so eine weite Strecke mit dem Auto unterwegs gewesen. Fällt auf, dass Europa wirklich zusammenwächst, ein Land wird. Sprachen ändern sich, Musik ist anders, Nachrichten sind auch verschieden. Aber was heißt das schon? Die Landschaft ist dieselbe geblieben. Erzählt immer wieder die gleiche Geschichte von einem alten Kontinent, der die Kriege satt hat. Gutes Gefühl, einfach fahren, an nichts denken. Die Straßen und den Geist der Geschichte durch mich durchziehen lassen. Ja. Hier bin ich zu Hause. Das hier ist mein Heimatland. Ma patrie. La mia patria. La mia patria. My home country. My home country.
Voilà, on va s'arrêter là. C'était une petite introduction. On va y revenir dessus. Et ce qui m'intéresse, moi, dans le cadre de petit topo que je vais faire, c'est du coup filmer la ville. Pour moi, c'est une question de représentation qui se situe à travers le film, entre l'image et le son. Donc c'est ce rapport-là dont je vais essayer de parler. Parce que si on considère le médium filmique, en fait, on remarque que... que même si ce mode de représentation joue en fait sur les deux tableaux, sur les deux dimensions du sonore et du visuel, le son est en fait au cinéma quand même toujours second par rapport à l'image. Un rapport hiérarchique est admis au profit de l'image, et on s'en rend bien compte par exemple si, comme parfois on remarque qu'il y a un décalage entre la voix d'un acteur et le mouvement de ses lèvres. Dans ces cas-là, on pense directement que c'est le son qui n'est pas bien calé par rapport à l'image. On ne se dit pas que c'est l'image qui est en décalage par rapport au son. Ce que je vais essayer de montrer au cours de cette intervention, c'est que le son, et plus particulièrement le son direct, n'en est pas moins déterminant pour l'appréhension de l'ambiance des lieux filmés, et notamment pour la compréhension de sa dynamique, de la dynamique de l'ambiance, en lien avec les temporalités, mais aussi les pratiques humaines qui ont lieu dans l'espace filmé. Donc c'est pour ça en fait que j'ai voulu projeter en introduction au début du film Lisbon Story, qui est un film qui a été réalisé par Wim Wenders en 1994. Et en fait dans cet extrait, donc on voit le personnage principal, Philippe, qui quitte sa ville. Sa ville de Francfort, et qui va traverser l'Europe en voiture en direction de Lisbonne pour aller aider un ami réalisateur à faire la bande-son de son film. Donc ce film, qui met en fait en scène le travail d'un chef opérateur du son au cinéma, est particulièrement intéressant du point de vue sonore en fait. Et notamment dès le début du film avec la séquence de la route. En fait, c'est une séquence qui est composée de plusieurs travelling avant, montés en coupe sèche et qui représente des fragments successifs du trajet. Donc on voit la conduite automobile, principalement sur l'autoroute, à part le petit côté carte postale, on passe au milieu de Paris, etc. Et ce trajet est accompagné par la radio. Et en fait, c'est sur le plan sonore, par les sons diffusés à la radio, qui est définie une certaine relation à l'espace traversé. Isolé dans l'habitacle de la voiture, on contemple le paysage mouvant en le situant grâce aux informations sonores. C'est effectivement la radio qui va nous informer sur les espaces et les temps traversés, les langues et le décompte des heures s'enchaînent en fait, au fil des émissions, des journaux et des stations captées. Alors qu'à l'image, comme le dit ensuite Philippe dans son monologue qu'il enregistre par ailleurs, il dit « le paysage est resté le même, c'est grâce à la radio qu'on remarque une évolution ». Il dit aussi « les langues changent, et la musique, et les nouvelles ». Donc entre l'image et le son, s'établit alors une perception plus complexe de l'espace traversé, qui est d'ailleurs relevée voilà, dans le monologue de Philippe, « traverser le continent européen met en fait en scène constante et diversité, une transition faite de nuances et de variations, qui garde quand même néanmoins une certaine unité. » Donc on va s'intéresser à la manière, ou plutôt aux différentes manières, dont la perception du spectateur peut se développer entre l'image et le son, dans cet intervalle, entre des informations qui s'expriment sur le plan sonore et des informations qui s'établissent uniquement sur le plan visuel. Interroger en fait ce qui se tisse entre les images et les sons dans les productions audiovisuelles consiste en fait à refuser de penser le son comme quelque chose de simplement additionnel par rapport à l'image. Ça incite à réfléchir à leur relation. Donc c'est pas uniquement une addition, mais une relation à ce qui se dégage pour le spectateur dans l'entre-deux de sa perception visuelle et de sa perception sonore d'un même film. Donc si le cinéma est né muet, le film s'est progressivement doté de qualités sonores. Par contre, bien que le gramophone ait été inventé en 1870, il aura fallu attendre plus de 30 ans après la naissance du cinéma pour réussir à synchroniser le phonographe et le cinématographe. Donc le film Le chanteur de jazz, qui a été réalisé par Alan Crosland en 1927, est communément considéré comme le premier film parlant sorti en salle, parce que lors de très très courtes séquences, il propose en fait des dialogues et des chansons qui sont synchronisées à l'image, voilà, mais au cours de très courtes séquences. En 1928, juste après l'invention du parlant, du film sonore si on veut, Siegfried Krakauer, qui est aujourd'hui reconnu comme l'un des premiers théoriciens du cinéma, a invité du coup les réalisateurs de son époque à être mesurés et vigilants dans leur emploi du son au cinéma. Parce qu'avec l'apparition du son au cinéma, certains d'entre eux avaient tendance à saturer la bande-son de leurs films avec des compositions musicales. Et du coup, Krakauer pense que ce geste-là de surabondance de la musique dans les films masque en fait la richesse de la réalité filmée qui aurait pour lui toute légitimité à être représentée et révélée aussi sur le plan sonore. Donc en ce sens-là, Krakauer était un peu visionnaire et donc voit dans le cinéma sonore la possibilité de donner accès par la représentation audiovisuelle à des pans de la réalité qui étaient jusqu'alors inaccessibles. Il décrit ainsi le potentiel de cette nouvelle technique, je cite, donc avec la citation que vous avez à l'écran, en disant « Délivrer le vacarme accidentel de la rue pour le faire intervenir dans notre monde, tel est le rôle réservé à ce nouveau procédé technique, tout comme il avait été réservé depuis lors à la technique cinématographique de rendre accessible à notre conscience la vie des lumières et des ombres. Ce serait se livrer à un jeu gratuit que de répéter purement et simplement l'existence déjà maîtrisée esthétiquement. Le film sonore ne prendra tout son sens que s'il parvient à révéler l'existence inconnue avant lui, les sons et les bruits autour de nous qui n'ont encore jamais été en communication avec les impressions d'image et ont toujours échappé au sens. » Donc ça c'est... voilà, là voilà, j'ai oublié le titre, donc est-ce que c'est dans Voyage à la danse qu'il a dit ça? Oui, bah oui. D'accord, donc c'est pas sa théorie du cinéma, parce qu'il a fait une théorie du film, mais ça il l'a écrit plus tard en fait, la théorie du film, dans les années, une fois qu'il avait émigré aux États-Unis. Avant ça, en fait, Krakauer, c'était un chroniqueur, donc il écrivait dans les journaux sous forme de textes assez courts et d'épisodes qui parlaient de son époque, en fait, de ce qu'il était en train de se passer devant lui. Et donc, il était assez fan de cinéma. Donc, des sons en communication avec des impressions d'images. Les sons au cinéma sont donc bien en relation avec des images. Et c'est cette relation qui a d'ailleurs déterminé différentes manières de les classer, de classer ces sons et de les distinguer. Donc s'il est assez commun de rappeler que la bande sonore peut être constituée de trois grands groupes de sons, les voix, les bruits et les musiques, Michel Chion, dont... Alors là j'ai mis un petit... ils étaient un peu partis à la doc, donc j'ai mis les ouvrages que je vais citer uniquement ceux que j'ai trouvé, vous pouvez les faire circuler. Et donc Michel Chion élabore différentes catégories du son au cinéma. Ces catégories définissent des types de sons en fonction de leur rapport à l'image. Donc il y a deux grandes familles de sons. La première est celle des sons visualisés, qui sont aussi appelés sons in, et ce sont les sons dont la source est visible dans l'image. La seconde est celle des sons acousmatiques, c'est-à-dire des sons dont la source n'est pas visible à l'image. Et Michel Chion distingue deux types de sons acousmatiques, les sons hors champ et les sons off. Un son hors champ est un son dont la cause n'est pas visible simultanément dans l'image, mais qui reste pour nous situé imaginairement dans le même temps que l'action montrée et dans un espace contigu à celui que montre le champ de l'image. Donc, dans Lisbon Story, les sons hors champ sont en fait assez importants parce que Philippe va explorer la ville tout au long du film, d'abord en fait avec ses oreilles. Parce qu'il découvre, il marche dans la ville en promenant sa perche. Et donc, il écoute la ville dans son casque, relié à sa perche, sans forcément la voir ou voir les sources sonores. Et le spectateur entend les bruits de la ville avant de les découvrir, de découvrir leur source à l'image. C'est par exemple le cas de la scène qu'on va voir, dans laquelle le son d'une machine qui est utilisée par un rémouleur est d'abord un son hors champ, avant de devenir dans la suite du même plan un son visualisé, donc ça devient un son in. Donc c'est dans ce plan où Philippe va s'asseoir sur l'escalier.
C'est focus.
C'est d'abord un son hors champ avant de devenir un son in, le son de la machine. Et en fait, il était à la recherche, donc il arrive à Lisbonne, enfin je sais pas si vous connaissez le film, il arrive à Lisbonne, il découvre des bouts de vidéo tournés par son ami et donc ensuite il part à la recherche des sons qui ont été filmés. Donc il compose la bande son à partir de Rush. Et c'est comme ça qu'il découvre la ville et que nous sommes invités à découvrir la ville d'abord par le sonore dans ce film. Alors, un son off, à la différence d'un son hors champ, c'est un son qui, je cite, émane d'une source invisible située dans un autre temps ou un autre lieu que l'action montrée dans l'image. C'est par exemple la musique de film ou la voix off d'un narrateur qui raconte une action au passé. Donc à propos de ces trois grandes catégories de sons au cinéma, Michel Chion précise qu'il ne s'agit ici, avec ces distinctions, que d'apprécier un rapport, un intervalle entre le son et l'image, et nullement le son en soi, dans son espace, sa couleur, etc. Un son in demeure le même, dans sa texture, dans sa couleur, quand il devient hors champ, et l'écoute acousmatique des sons du film, sans voir l'image, ne nous dit aucunement lesquels sont in, lesquels sont hors champ. En d'autres termes, un son n'est in, hors champ ou off, que par rapport à une image, et dans ce rapport même, à l'instant où il s'établit. Donc encore une fois, on voit bien que dans ces catégories de sons, c'est d'abord l'image qui est première, mais... le son n'est pas pensé comme étant... Les catégories ne sont pas pensées comme étant... le son étant additionnel, mais dans une relation à l'image. Le son direct au cinéma, qu'on appelle aussi son synchrone, n'est pas une manière de qualifier le son dans son rapport à l'image, mais dépend de l'enregistrement. Un son direct est un son qui a été enregistré en même temps que l'image au moment du tournage. Ce type d'enregistrement est souvent utilisé dans le cinéma documentaire et a pu se développer en fait dans les années 50-60 grâce à l'invention du Nagra, qui est le premier magnétophone de petite dimension. Et à partir de 1962, un système de régulation assure en fait une parfaite synchronisation entre le Nagra et la caméra. Donc, grâce à sa légèreté, le Nagra combiné à la caméra 16 mm éclair, 16, permet alors une grande mobilité et sera pour cette raison très utilisé pour la réalisation de films ethnographiques. On pense notamment au cinéma de Jean Rouch et dans tout le courant du cinéma direct. Mais il ne sera pas utilisé uniquement en documentaire, mais aussi principalement par les réalisateurs de la Nouvelle Vague, puisque à cette époque, ils décident de tourner dans la rue, en décor réel. Donc pourquoi s'intéresser maintenant particulièrement au son direct ? Car sans l'enregistrement synchrone des bruits ambiants, l'ambiance est d'une certaine manière dictée par l'image. Sans les sons ambiants, la dimension sonore ne peut remettre en cause la représentation que le spectateur se fait de l'ambiance uniquement à partir de l'image. Donc en fait, sans le son direct, l'ambiance traduite est potentiellement moins complexe, moins paradoxale et moins modulable. Donc l'enregistrement en son direct est effectivement de première importance dans la perception de l'ambiance par le spectateur. Et pour Michel Chion, la portée du son direct réside d'ailleurs dans sa potentialité à exprimer, je le cite, dans des films sans acteurs, des blocs synchrones de sons et d'images arrachés à des moments uniques. Dans cette utilisation, le son direct qualifie moins des personnages en fait, qu'un lieu filmé à un moment donné et que l'ambiance de ce lieu. Le son direct insiste sur le caractère réaliste du lieu et du moment filmé. Et pour Daniel Dehé, dont l'ouvrage est en train de circuler, Daniel Dehé nous dit « Quel que soit le site de tournage choisi, un sédiment sonore baigne tout l'espace. C'est son bruit de fond, son ambiance. Ce sédiment est un continuum. Cette ambiance sonore est une couche qui ancre le temps cinématographique intérieur au plan. » Dans une surprésence, un excès de réel qui n'a de cesse de s'annoncer. Cet excès d'effet de réel résulte du continuum sonore qui baigne la prise de son. Toujours lorsqu'il s'agit d'un enregistrement en son direct. En fait, aucune dissociation n'est possible. Il n'y a aucune ellipse, aucune omission possible dans la continuité du son direct. Donc, dans ces conditions d'enregistrement et de montage du son, il semble impossible de mettre à l'écart le réel. De quelle manière, alors, le son direct peut-il être opérant quand on veut saisir l'ambiance par le film ? Donc, on va voir plusieurs choses. Que le son direct participe d'une part à la traduction de l'identité du lieu, qui donne à voir des choses dans l'image, mais qui donne aussi à percevoir des choses invisibles ou hors champ, et ensuite qui donne à lire des durées. Donc, le son direct traduit des qualités acoustiques, les qualités acoustiques du lieu filmé. Pour Daniel Dehé, les lieux dans lesquels sont produits les sons ne sont pas neutres. S'ils sont des résonateurs qui marquent la matière, ils sont aussi des lieux sociaux, et leur degré de silence ou la nature de leur bruit de fond exprime une particularité sociale, du calme à la surcharge, à la violence. On peut alors parler de couleur du lieu. Thierry Millet nous indique que l'espace en fait colore le son, lui donne une couleur. Il dit « On ne peut plus ignorer que tout son, est perçu dans la limite d'un espace qui va influencer sur les caractéristiques du son entendu et lui donner une coloration propre, en même temps qu'il le charge d'une information plus ou moins précise sur certaines caractéristiques de cet espace. Ainsi, le son reflète l'espace, et l'espace contamine le son, le colore. » Ça fait notamment écho à la présentation d'Éléonore. Donc la couleur du lieu, qui est exprimée par le son, selon la configuration spatiale, matérielle et sociale du lieu filmé, révèle son identité. Le spectateur peut alors identifier la fonction principale du lieu, voire potentiellement le situer géographiquement, le localiser à partir des informations sonores. C'est d'abord par le son que le spectateur est en prise avec le lieu. La première impression du lieu dans sa globalité est en fait une impression sonore, et le spectateur peut donc être amené à faire une confusion lorsque le son n'est pas cohérent avec l'image. On va voir un court extrait d'un film où c'est un peu le cas. Enfin, vous me direz. Dans ce film de Jean-Philippe Corr, qui s'appelle La parenthèse urbaine Circle, et qui a été réalisé en 2010, la bande sonore amène parfois le spectateur à identifier en premier lieu, d'abord en fait, le lieu comme celle d'une voie ferrée, comme celui d'une voie ferrée en activité. Après l'immédiateté de la perception sonore, le spectateur prendra le temps de lire l'image, et va identifier l'incohérence qui existe entre image et son, et le jeu aussi qui existe entre cette image, ces images et ce son. Donc des images qui représentent en réalité une voie ferrée, qui est la petite ceinture, est désaffectée. Et par l'opération de montage filmique, le son et la vitesse de défilement des images qui sont au service de l'évocation de l'histoire du lieu, donc de cette voie ferrée encore en activité. De la même manière que la cohérence entre l'image et le son importe pour comprendre l'identité du lieu, la conjonction du point d'écoute et du point de vue est aussi quelque chose qui est assez naturellement questionné, en fait, de façon implicite, par le spectateur, de façon inconsciente. Donc en fait, lorsque le point d'écoute confirme le point de vue, c'est-à-dire lorsque l'on perçoit que le son a bien été enregistré au même endroit que l'image, la spatialisation de l'observation est renforcée. Donc c'est par exemple dans l'extrait qu'on va voir maintenant, on comprend dans le déroulement progressif du film qu'on se situe bien sur un balcon qui du coup est à l'interface entre un espace intérieur et un espace extérieur.
E agora, o que é que você vai fazer?
Vai.
E agora, o que é que você vai fazer? Para o sol de novo aparecer e você sem ninguém a chorar por alguém que partiu para nunca mais voltar. Está na hora de você lutar e ser feliz. Faça agora o que nunca. cafés que grite ao céu, grite ao mar, com isso a solidão faça
C'est un extrait d'un film qui s'appelle Rio de Janeiro de Dominique Gonzalez-Forster, dans lequel le point de vue surplombe la rue et le point d'écoute confirme en fait la position au seuil entre l'intérieur d'une chambre, d'un hôtel d'où une musique surgit et l'extérieur depuis lequel, à la fin, toute fin du plan, on entend la rumeur du lieu qui nous arrive. Donc cette compréhension de la conjonction du point de vue et du point d'écoute, cette confirmation du point d'observation, permet d'une certaine manière une lecture sonore de l'image. Je vais aller un peu plus vite. Donc le deuxième point, le son direct donne à voir des choses dans l'image. Le son peut parfois donner à voir de nouveaux éléments dans l'image visuelle qu'on n'aurait pas forcément aperçu. Donc, si le son direct ouvre la perception à la couleur du lieu, à son ambiance, il peut aussi révéler des détails inaperçus. Donc le son pointe et détache certains objets sonores présents à l'image en sollicitant l'attention du spectateur qui cherche dans l'image la source sonore du son, sa provenance en fait. Et donc des objets bruyants peuvent être perçus alors qu'ils ne sont pas forcément très visibles dans l'image. On va pour cela faire une petite expérience en projetant un extrait d'un film intitulé « Dans l'intimité de la rue » qui a été réalisé en 2011 par des étudiants de cette école en master. Et donc je vais vous projeter cet extrait deux fois, la première fois sans le son et la deuxième fois avec le son. Et vous me direz si pour vous ça change quelque chose, si on voit qu'il y a des éléments de l'image qui se remarquent différemment.
Thank you.
Est-ce que vous avez une perception différente des éléments de cette, qui composent l'image quand il y a le son et quand il n'y a pas le son?
Je suis plus focalisé quand il n'y a pas le son. Quand il n'y a pas le son, je suis sur des fenêtres visuelles qui sont juxtaposées, alors qu'avec le son, il y a un mélange d'ambiance. C'est moins étanche.
Est-ce que tu es focalisé sur une fenêtre? Enfin, est-ce qu'il y a une fenêtre qui focalise plus
Quand il y a le son ou quand il n'y a pas le son?
Quand il n'y a pas le son.
Quand il n'y a pas le son, oui, par moment. Enfin, c'est variable, il y a des changements de focalisation me concernant. Alors qu'avec le son, oui, j'étais plus dans un ensemble, dans une interdépendance, dans une relation entre les fenêtres. Mais ben, c'est moi.
Avec le son, on a envie de corréler le son et l'image, et du coup, notre attention se reporte sur les éléments qui produisent du son. Moi, je sais que j'ai regardé tout le temps les voitures.
Ouais. J'avais fait cette expérience avec différentes personnes qui est un trait récurrent, c'était quand il n'y a pas le son, on voit très fortement la mamie qui attend. Parce qu'elle est en plus dans un cadre qui est plus clair que les autres, qui est plus illuminé. Et quand il y a le son, on remarque donc plus le groupe d'ados qui arrive à la fin. Parce qu'il y a certaines émergences vocales qui sortent de ce groupe. Alors que il est, apparemment, il passe plus inaperçu quand il n'y a pas le son. Après, il y a la présence des voitures quoi, qui est hyper renforcée. Donc à travers la perception de certains détails de l'image, le son direct souligne en fait la profondeur de cette image audiovisuelle. Si l'image est plate, le son comporte une certaine profondeur. Et dans le dernier extrait, projeté, le son révèle ce groupe d'ados et permet de les situer alors qu'ils sont plutôt dans une espèce de second plan de l'image. Parce que à certains moments, il y a leur émergence vocale qui passe au premier plan du sonore. Quoi. Donc voilà, un jeu de profondeur. Et donc par le son, l'image audiovisuelle se montre aussi une image mouvante. Effectivement, la source sonore n'est pas forcément immobile. Et donc si le déplacement d'une source peut être masqué à l'image, elle est cependant perceptible sur le plan sonore. Donc, le son direct permet de localiser des choses dans l'image, de distinguer leur présence et leur mouvement. Mais il permet aussi de rendre prégnantes des choses qui peuvent être invisibles à l'image ou alors hors du cadre de l'image. Donc le hors-champ de l'image est perceptible pour le spectateur uniquement d'un point de vue sonore. Pour Gilles Deleuze, c'est le sonore qui peuple le hors-champ. Et le hors-champ sonore vient compléter la compréhension qu'on a d'un lieu et de son ambiance. Parfois, ce hors-champ sonore la complexifie en témoignant de présences ou d'activités qui ne sont pas forcément visibles ou perceptibles à l'image. Donc le hors-champ sonore peut même venir parfois en contradiction avec l'image, et cette contradiction complète la représentation visuelle de l'ambiance du lieu et force le spectateur, le met dans un espèce de travail, quoi. On va voir maintenant un extrait du film de Jean-Marie Straub et Daniel Billet qui s'appelle Lothringen, qui a été réalisé en 92. Et dans cet extrait, on voit très peu d'activité à l'image, alors qu'en fait, le hors-champ sonore est assez riche. C'est des petites nuances, donc j'espère qu'on va bien l'entendre, mais la bande-son témoigne d'une vie ordinaire du lieu filmé qui est assez riche, alors qu'à l'image, elle est quasiment absente. part la poule qu'on entend bien, hein, si on écoute avec... Si on écoute avec le casque, on entend plein de... Enfin, là, on entend peut-être pas très bien, mais on entend plein de nuances. On entend le bruit d'une... alors, je sais pas si c'est une tondeuse ou une tronçonneuse, mais je dirais... Tondeuse, mais voilà, c'est les deux hypothèses avant de trancher. des bruits de voix, de cris, de klaxons, de circulation, d'animaux, domestiques, etc. Donc voilà. Et donc dans cet extrait, comme de manière un peu plus générale, avec le son direct, on perçoit en fait ce que Tim Ingold, qui est un anthropologue britannique, appelle le tascape, c'est-à-dire la co-configuration du paysage et des activités, des pratiques en fait que le paysage accueille. Donc dans un article qui développe la notion de tascape, Tim Ingold revient en détail sur l'une de ses premières intuitions qui l'a amené à penser que le paysage est ce que l'on voit autour de nous, alors que le tascape est ce que l'on entend. C'est une citation un peu longue, mais il écrit « Pour être vu, un objet n'a besoin de rien d'autre que lui-même pour qu'un réseau optique spécifie sa forme à un spectateur en se composant de lumière réfléchie par ses surfaces extérieures. Pour être entendu, en revanche, un objet doit émettre activement des sons ou, à travers son mouvement, provoquer un son émis par un autre objet avec lequel il rentre en contact. Ainsi, par ma fenêtre, je vois un paysage de maisons, d'arbres, de jardins, une rue et un trottoir. Je n'entends aucune de ces choses, mais je peux entendre des gens parler sur le trottoir. Une voiture qui passe, les oiseaux chanter dans les arbres, un chien qui aboie quelque part au loin, et le bruit de marteau alors que mon voisin répare son abri de jardin. En bref, ce que j'entends, c'est l'activité, même si sa source ne peut être vue. Et comme les formes du tascape, suspendues comme elles le sont au mouvement, ne sont présentes qu'en tant qu'activité, les limites du tascape sont également les limites du monde auditif. Donc, selon Ingold, le son révèle les activités présentes dans le lieu qui donnent forme au paysage et à son ambiance. Donc, si dans le film, le tascape n'est pas forcément visible à l'image, puisqu'on a vu que, bon, voilà, à part voir l'arrière des maisons, on est un peu côté jardin, quoi. Et il y a peu d'activités présentes à l'image, mais notamment sur le plan sonore, le hors-champ sonore, on sent quand même l'activité de ce petit village de Lorraine. Donc, par l'articulation du son et de l'image, le film propose donc un point de contact entre le paysage et les pratiques qui l'accueillent et qui lui donnent forme. Ce qui est offert au spectateur à travers le médium filmique, c'est donc une mise en représentation des différents objets qui s'expriment plus ou moins par l'image ou plus ou moins par le son et qui lui permettent ainsi de lire ce qui se tisse entre ces modalités d'expression et les objets perçus. Le dernier point, c'est donc celui du son direct qui donne accès à des choses ancrées dans une durée. Pour lequel, dans ce dernier point, on peut considérer que le film est opérant pour la saisie de l'ambiance. C'est aussi parce qu'il permet d'appréhender les durées, les temporalités et donc la dynamique de l'ambiance. Dans la représentation audiovisuelle, le son direct donne le temps, c'est lui qui se fait gage du temps. Michel Chion note qu'avec l'arrivée du cinéma sonore, et encore davantage avec l'usage du son direct, le film s'inscrit dans un temps linéaire, dans une durée qui ne peut être manipulée. Le son direct peut, au même titre que certains objets à l'image, donner des indices horaires, donc par exemple les cloches qui marquent les heures, les cloches d'une église qui marquent les heures. Mais si le son direct marque l'irréversibilité du temps, c'est surtout en fait qu'il engage le spectateur dans la temporalité du lieu filmé. C'est-à-dire qu'en ouvrant la perception à un temps irréversible, le son direct rend perceptible, la durée dans laquelle la transformation de l'ambiance est possible. Pour le dire autrement, l'ensemble des bruits d'un lieu, son timbre, traduit son identité. Et selon Thierry Millet, le timbre est un caractère sonore qui signe l'individu ou l'instrument dans son unicité, dans ses particularités. Mais le timbre d'un lieu, en fait, n'est pas unique, il n'est pas figé, il évolue dans le temps. Selon les rythmes journaliers, et saisonniers, mais aussi selon les pratiques des usagers. Je ne vous apprends rien. Mais si on filme un lieu en son direct, le spectateur pourra percevoir l'évolution de son timbre dans la durée du plan, si cette évolution a lieu au cours au moment de l'enregistrement. Donc, par le recours au son direct, le spectateur peut donc percevoir l'évolution de l'ambiance du lieu filmé dans la durée du plan. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai oublié de vous présenter cette citation, mais je conclue à ce qu'il est pas. À partir de ces différents exemples, donc on a vu que l'image et le son direct se conjuguent et proposent en fait une épaisseur dans laquelle se déploie l'attention du spectateur. Bien que le son direct soit toujours subordonné à l'image, nous avons vu qu'il contribue de façon incontestable à la perception par le spectateur de l'identité du lieu filmé, de son caractère complexe et du caractère métabolique changeant de l'ambiance. Et cet après-midi, on va vous proposer plusieurs expérimentations et celle que je vais vous proposer, c'est d'essayer de réaliser des plans courts en vidéo, en son direct, des plans fixes qui révèlent en fait un certain contraste entre l'image et le son et qui permettent donc par ce contraste de révéler la complexité de l'ambiance filmée. Donc plutôt quelque chose qui n'est pas de l'ordre de... Enfin, qui met en tension. Voilà. Merci.
Merci.
Merci. Merci.
Alors, il y avait une pause qui était prévue de 11h à 11h15. Alors, si vous voulez qu'on discute en même temps que la pause. Parce que c'est une matinée très dense, il reste deux présentations. De quoi ?
C'est très dense.
Oui, oui. Mais si en même temps on veut prendre du thé et tout ça, c'est possible, quoi.
C'était un bon exemple c'est pas bon terme sans doute, mais le panorama de ce point de ce petit village là. Et du coup moi j'ai entendu plein d'oiseaux, plein d'espèces différentes. Et ça rebondissait bien par rapport à ce que tu disais juste après sur la temporalité. Parce qu'avec ces marqueurs qui sont significatifs pour moi en fonction des espèces qu'on a entendues, il y en a un peu plus d'une dizaine. J'arrive vraiment à resituer le moment de l'image et la temporalité, pas forcément exactement dans la forme concrète, mais par contre par ce panorama en fait circulaire, je pourrais imaginer ça en fait comme une horloge et me dire tiens la fauvette c'était plutôt à midi, ensuite il y a la mésange qui est arrivée, il y a le troglodyte qui a chanté juste après. Puis de temps en temps, je levais la tête et puis je regardais un peu où c'était. Donc il y avait vraiment ça qui était scandé, donc ça collait parfaitement avec ce que tu as dit juste après.
En fait, ce plan était une private joke d'ornithologue.
Non, bah.
Est-ce que c'est une poule alors ? C'est une poule quoi ?
Non, mais il y a le coq, mais en fait, il y a plein d'autres espèces, où, je sais pas d'ailleurs, parce que j'écoutais ce qui chantait buisson, quoi. Mais. Ouais, et
est-ce que tu arrivais à lire le est-ce que ça correspondait, je sais pas si on peut faire ça, mais tel oiseau niche dans
par exemple
tel arbre,
il y a une fauvette qui chante.
Ouais.
Et il y a le plan en fait qui se tourne en fait c'est un chant avorté, on a juste le début du chant et on se tourne plus vers le ravin quoi.
Ouais.
Et on tombe à peu près sur le milieu qui peut correspondre à cette espèce de truc buissonnant.
D'accord.
Donc ça correspond bien. Et le premier cadre qui est tourné, on a une haie de grands arbres. Là, il y a sur la gauche, il y a un merle qui chante bien, on l'entend très bien. Donc là, on peut imaginer qu'il est perché en haut.
Ok.
Donc il y a les marqueurs comme ça, non, ça m'a parlé.
Donc il y a aussi la cohésion entre point de vue, point d'écoute.
Quoi. Ouais, point de vue, point d'écoute, milieu, distance.
Donc en fait la cohérence serait une question d'aptitude à la lecture pour celui-là qui l'écrit, ou éventuellement pour celui-là qui n'a pas cette aptitude à la lecture, comme moi par exemple, alors l'écrit des oiseaux. Mmh. Simplement la cohérence se dégagerait inconsciemment, on va dire. On l'apercevrait tel quel. Est-ce que tu peux en dire ça ?
Ah bah j'en sais absolument rien, du coup c'est plutôt moi qui devrais poser la
question. Mais là, en tant que citadin, il y a quand même un truc qui justifie la cohésion entre point de vue et point d'écoute, c'est le passage de la voiture au milieu du village avec l'effet Doppler.
Mm-hmm. Moi je l'ai complètement écarté ça.
Ouais. Je sais pas si on
peut en fait, sur
le repasser, si vous voulez.
Voilà, éplucher ce qu'il y avait.
Donc effectivement, affaire de l'écoute.
Ah ouais, là pour le coup c'est vraiment de la faute.
Vous voulez qu'on le repasse comme ça, on réécoute les fauvettes, les mères, les voitures. Ouais, tu vois, ça peut être chouette.
C'est une pétrière.
C'est une espèce qui est quand même assez proche de, des habitations, donc là par contre il y a cohérence entre eux. Alors là il y a les... alors je connais moins les stridulations des grillons et des sauterelles, mais du coup là on a des fourrés qui sont propices à ce type de milieu et on entend des stridulations. Ouais. Juste un tout petit début de champ de fauvettes, et si on regarde en fait les buissons qui sont en bas avec les aubépines, etc., ça c'est des milieux aussi qui sont favorables à cette espèce, même si bon, elle n'est pas très très exigeante, mais ça va jouer. Voilà, encore la fauvette, on a eu une espèce de sucre, c'est plutôt des arrêter l'image, j'avais pas vu. On entend le chouka des tours qui est assez loin, et si on regarde dans le paysage, on a donc un monument historique. Une église, et typiquement c'est ce genre d'espèce qui va se loger en fait dans les bâtiments. Donc on l'entend en fait au même moment, et j'avais pas vu la première image.
La voiture.
Ouais, j'avais carrément perdu.
Et donc avec le passage derrière, enfin moi j'avais vu ça, ouais. Mais donc entre le quand on l'entend passer derrière les deux, enfin dans l'ouverture entre les deux bâtiments, ça, enfin c'est vraiment cohérent quoi.
Ouais.
Ça me fait penser, en fait, j'avais connu comme ça un étudiant états-unien en botanique. Donc c'est un parallèle visuel. Il avait une lecture botanique des restants de spaghettis.
Oui. Alors justement, par rapport à la cohérence, moi, il y a un truc qui m'avait vraiment frappé. Et du coup, j'écoute tout le temps dans les films les chants d'oiseaux. Je me rappelle d'un film, du coup... là, c'est un film populaire, c'était Noël. Je me rappelle plus, je suis très très mauvais en référence. Scène de Verdun, jour de Noël, et en fait, à un moment, il y a un pinson qui chante, et c'est une espèce qui chante absolument pas dans ces moments-là.
Et en fait, là, tu t'es levé, t'es sorti.
Et non, et en fait, ce qui m'a surtout interrogé, c'est que je me suis dit, il y a eu un choix sur ce champ-là, et sur quels critères le choix s'est réalisé, étant donné qu'en fait, la connaissance naturaliste n'était pas présente sur la saisonnalité du champ, et pourquoi il aurait pris, étant donné que la saisonnalité n'était pas prise en compte, plutôt cet oiseau plutôt qu'un autre.
Peut-être parce qu'il s'en foutait, ou peut-être parce qu'il trouvait ça plus joli.
Ouais, mais c'était vraiment. Là, ça ressortait, c'était une scène très calme, donc on l'entendait vraiment très clairement. Il y avait en plus de la neige. Et en plus, il y a d'autres oiseaux qu'on entend en hiver par des cris, ce qui correspondent vraiment à cette époque. Et là, pour le coup, c'était. Non, là, c'était vraiment chant d'oiseaux. Ah ouais, c'était ajouté, mais justement, en fait, dans cet ajout. Pourquoi cette espèce-là plutôt qu'une autre, en plus c'est un chant très caractéristique, très scandé. Donc voilà, moi comme Roger.
Après la différence, là tu fais une lecture, donc par rapport à Don Spingen, ça donne une cohérence entre le vu et l'entendu. L'étudiant en botanique que j'ai connu, mais du coup c'était plus du post-mortem, c'est-à-dire ça lui permettait de remonter le tournage. Par la végétation, il savait si ça avait été tourné dans quel coin d'Andalousie, ou en Calabre, ou dans les Pouilles. Okay. Donc c'était, lui, il était plus sur le fer, donc peut-être plus sur du... Oui, sur du son direct, du coup. C'est tenté que ça soit... Est-ce qu'on est certain que ça soit du son direct, ça mmh. On est certain que ça soit du son direct.
Si ça avait été remonté, ça aurait été balèze. C'est
ça. Je crois que les huiliers sont capables de ce genre de tas.
Mais ils sont aussi très réputés pour être direct et justement être hyper. Hyper à l'écoute. Quoi. Non, mais vraiment très, très précis. Très, enfin, la qualité d'écoute est hyper importante. Donc c'est bien.
Après, dans le rapport image-son, par exemple, dans certains films de Pasolini où il a filmé de l'ethnique, il a été dans des pays un peu exotiques pour filmer des gens qui jouent de la musique locale, il s'est pas gêné parfois pour garder les images et balancer une autre musique. Et on se retrouve avec des berbères qui tapent sur un tambourin, on entend des cuivres roms. Et ça marche. Impressionnant.
Ça va être là.